Boomerang à l'heure européenne, Ali, nous partons en Grèce ce matin à Athènes, où nous accueille chez lui le romancier Vassilis Alexakis. Un entretien enregistré dimanche dernier. C'est parti. Le chauffeur de taxi s'appelle Panos. Il parle français, il file dans les rues d'Athènes et me confie qu'il adore son métier parce qu'il y a toujours une histoire qu'on lui raconte et qu'il peut répéter. Celle de ce vieux monsieur, tiens, par exemple, qui l'a emmené dans je ne sais quel théâtre un soir il y a 10 ans et qui lui a dit comme ça, sans qu'il s'y attende, sans qu'il sache trop quoi faire, qu'il voulait mourir. Ce soir-là, parce qu'il venait de perdre 700 000 euros en une journée, l'argent qu'on lui devait. L'entrepreneur avait fait faillite, c'était foutu. À l'époque, me dit Panos, on voyait pas encore la crise, mais on en parlait tout le temps, dans les journaux, à la télé. Puis il y a eu d'autres histoires. C'est ça, des histoires, de plus en plus. Cet homme qui s'est jeté du pont, cette femme sous un train, et puis cette famille qui est partie chez des cousins à la montagne, et puis leurs voisins, puis d'autres voisins, si bien qu'on a l'impression que le quartier se vidait jour après jour. Puis cette boutique, tiens, vous voyez là, qui a disparu du jour au lendemain, plus rien. Ils ne pouvaient plus payer, alors ils sont partis. Mais il y a du monde aujourd'hui quand même, vous trouvez pas? Les gens reviennent, le tourisme, tout ça. Pendant un temps, il n'y avait plus personne à Athènes, a été morte la ville. Moi, j'ai même pensé partir, mais j'ai bien fait de rester, vous voyez. Les gens reviennent. Tenez, ça y est, on est arrivé.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang, quatrième matin de cette semaine spéciale consacrée à l'Europe. Mon invité d'aujourd'hui est un écrivain grec qui a toujours beaucoup écrit en français. C'est à Athènes qu'il nous reçoit aujourd'hui, chez lui. Bonjour, Vassilis Alexakis.
Bonjour, Rhin.
Merci beaucoup de nous recevoir ici. Qu'est-ce qui fait d'Athènes une ville européenne pour vous, aussi bien dans son histoire que dans son esprit?
Est-ce une ville européenne? Les Grecs se sont toujours posé la question s'ils appartenaient à l'Occident ou à l'Orient, puisque bon, il faut bien appartenir à quelque chose. Et la question n'est jamais tranchée.
Pour nous, c'est quand même le symbole d'une culture commune qui remonte à l'Antiquité. Qu'est-ce que l'Europe doit à la Grèce, pour vous?
Mais elle lui doit quelques mots. Mais des mots sont des mots essentiels. Tous les mots sur les portes des hôpitaux sont des mots grecs. Je disais que la meilleure façon d'apprendre le grec, c'est de se faire hospitaliser à Paris. C'est simple, on se promène dans les couloirs et en fait, c'est un cours de grec. Donc on est parti de là, évidemment, le latin à travers le latin. Donc il y a une Europe, disons, gréco-latine, quoi, c'est ça en fait.
J'aime cette idée des mots. Et je pense par exemple au mot démocratie.
Oui.
Il se pourrait peut-être que l'Europe doive à la Grèce la démocratie, Vassilis Alexakis.
Oui, et ce serait formidable si ce mot était réellement appliqué. On voit qu'aujourd'hui quand même que la démocratie a en fait pas mal d'ennemis en Europe qui sont très agités, très actifs. Et malheureusement très efficace.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que depuis la crise de 2008, on ne parle plus de la Grèce autrement que comme le pays de la dette. Avec le recul, comment avez-vous l'impression que l'Union européenne ait traité la Grèce, vous?
Mais il faudrait parler de la dette que tout le monde a à la Grèce.
Oui.
À cause du vocabulaire, à cause de tout ce passé merveilleux. Donc, dire que la Grèce doit beaucoup, ça me paraît un tout petit peu ridicule. C'est vrai qu'on doit, mais on ne doit que de l'argent. Il ne faut pas en faire un drame national. Et ici, évidemment, les gens vivent, c'est vrai, difficilement. Heureusement, le climat est bon et les gens qui dorment dans la rue peuvent s'en sortir plus facilement qu'à Paris. En Grèce, c'est encore acceptable.
C'est terrible.
C'est encore acceptable. C'est terrible.
C'est ce que vous dites.
Mais il y a énormément de gens qui dorment dans la rue. Je les ai connus. C'est des gens très intéressants, qui ont été à l'école, etc. Quand on discute avec ces gens-là, on n'a pas du tout l'impression d'un écart ou qu'ils appartiennent à un monde différent, non.
Et ça, c'est un effet de la crise d'il y a 10 ans. Vassilis Alexakis, vous lui en voulez à l'Union européenne? Vous lui en avez voulu?
Mon impression, c'est qu'elle est dirigée par des technocrates, n'est-ce pas, qui ont des critères assez stupide, je pense, et très très limitée, et que par conséquent, les décisions prises concernent juste un petit aspect de la vie, et que là, il y a des erreurs.
Ah, ça veut dire que les Grecs attendent quoi de l'Europe aujourd'hui? Quel est votre ressenti, à vous?
Qu'est-ce qu'on attend de l'Europe? C'est pas une question facile. On attend, vous savez, peut-être une meilleure compréhension de l'autre. C'est étonnant, on parle de l'Europe, de l'abolition des frontières, de ceci, cela, mais cela n'a pas développé la compréhension et la sympathie pour l'autre. On aimerait que les frontières soient abolies, mais réellement qu'elles soient abolies aussi pour ceux qui viennent de Syrie, pour ceux qui viennent d'Afghanistan. D'abord parce qu'on en a besoin. Toute l'Europe manque de main-d'œuvre, et c'est en particulier vrai de la Grèce, où il y a une natalité très insuffisante. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, tous les Européens qui s'épuisent dans les usines allemandes ou hollandaises rêvent évidemment de prendre leur retraite en Grèce. Bon, on va faire alors un pays pour les retraités, et par conséquent, il faudra qu'on construise de nouveaux cimetières, puisqu'on va enterrer tout le monde ici. Et je pense, je me réjouis à l'idée que même Merkel va être enterrée ici, etc. On va devenir les fossoyeurs de l'Europe.
Vous êtes arrivé, Vassilis Alexakis, en France au début des années 60, et vous vous y êtes définitivement installé après le coup d'État des colonels en 1967. Pourquoi avoir choisi la France pour y faire vos études?
C'était la langue étrangère que je connaissais le mieux. Et quand j'ai eu une bourse de mon lycée pour aller à l'étranger, faire des études, j'ai choisi la France, peut-être aussi à cause des romans d'Alexandre Dumas, peut-être aussi à cause de Brigitte Bardot. C'est un pays quand même qui fait beaucoup rêver.
Et peut-être aussi grâce à Eugène Ionesco.
À Eugène Ionesco, parce que mon père qui était comédien, qui dirigeait une petite troupe de théâtre, avait reçu très tôt, moi j'allais encore au lycée, la cantatrice Chauve en français. On lui avait envoyé. Et moi, connaissant donc un peu le français, j'ai ouvert le livre. Je pense que c'est le premier livre français que je regardais comme cela. Et puis j'ai constaté que c'était très facile à comprendre, parce que Ionesco écrit avec des choses très simples, très drôles bien sûr. Ça m'a fait rire. Alors, à partir du moment où on rit en écoutant une langue étrangère, je pense qu'elle n'est plus tout à fait étrangère.
En quoi, à votre avis, est-ce que cette découverte du français par l'intermédiaire de Ionesco et de son théâtre de l'absurde a influencé votre rapport à la langue, et à la langue française précisément?
Ça m'a donné tout de suite l'idée que je pouvais aussi écrire cela. Ça m'a traversé l'esprit, ce n'était pas très sérieux, mais tout de même ça a laissé une trace. Le jour où j'ai commencé à écrire en français, évidemment j'ai pensé à Ionesco et je l'ai remercié d'une certaine façon.
Eugène Ionesco, qui était comme vous, un Européen, qui écrivait en français, et parmi les nombreux textes qu'il nous a laissés, il y en a un qui retient particulièrement mon attention ce matin, c'est Rhinocéros, en 1959, un texte qui, sous le masque de l'absurde, dénonce l'horreur de la guerre, la menace de la pensée unique et de tous les totalitarismes, un texte ô combien européen, dont j'aimerais qu'on écoute un extrait, dans une lecture de Jean-Pierre Granval en 1970, sur France Culture.
Comment peut-on être rhinocéros? C'est impensable, avais-je beau m'écrier. Il en sortait des cours, il en sortait des maisons, par les fenêtres aussi, qui allait rejoindre les autres. À un moment donné, les autorités voulurent les parquer dans de vastes enclos. Pour des raisons humanitaires, la société protectrice des animaux s'y opposa. D'autre part, chacun avait parmi les rhinocéros un parent proche, un ami, ce qui, pour des raisons faciles à comprendre, rendait à peu près impossible la mise en pratique du projet. On l'abandonna. La situation s'aggrava, ce qui était à prévoir. Un jour, tout un régiment de rhinocéros, après avoir fait s'écrouler les murs de la caserne, en sortit, tambour en tête, et se déversa sur les boulevards. Un jour, de mon balcon, j'aperçus, barrissant et fonçant à la rencontre de ses camarades, un rhinocéros portant un canotier empalé sur sa corne. « Le logicien !» m'écriai-je. « Lui aussi. Comment est-ce possible ?» Juste à cet instant, Daisy ouvrit la porte. « Le logicien rhinocéros !» lui dis-je. Elle le savait. Elle venait de l'apercevoir dans la rue. Elle apportait un panier de provisions. « Voulez-vous que nous déjeunions ensemble ?» proposa-t-elle. « Vous savez, j'ai eu du mal à trouver de quoi manger. Les magasins sont ravagés, ils dévorent tout. Une quantité d'autres boutiques sont fermées, pour cause de transformation, est-il dit sur les écriteaux. « Je vous aime, Daisy. Ne me quittez plus. Fermez la fenêtre, chérie. Ils font trop de bruit. Et la poussière monte jusqu'ici. Tant que nous sommes ensemble, je ne crains rien, tout m'est égal. »
L'écrivain franco-grec Vassilis Alexakis, invité de Boomerang ce matin dans le cadre de cette semaine spéciale consacrée à l'Europe. Votre vie, Vassilis, elle a été sans cesse partagée, voire déchirée entre la Grèce et la France. Et l'événement qui a tout fait basculer, c'est le coup d'état des colonels, on le disait, le 21 avril 1967. Ce jour-là, vous vous en souviendrez toute votre vie.
Eh oui, je m'en souviendrai parce que j'étais en train de faire mon service militaire au moment où le coup d'état a eu lieu. Et j'ai vu passer les chars de l'armée qui faisaient un bruit épouvantable. On ne comprenait pas ce qui était en train de se passer jusqu'au moment, évidemment, où on a eu les informations. Et c'est une période tragique pour la Grèce et qui a marqué et qui marque aussi le présent. Donc c'est un drame absolument épouvantable. Et bien sûr que je m'en souviendrai toute ma vie.
Mais pour vous, à ce moment-là, il n'était pas envisageable de rester en Grèce, il fallait partir.
Mais il fallait absolument partir parce que sous les colonels, la presse a quasiment disparu. Les journaux ne pouvaient publier que les communiqués du régime. Donc la plupart des journaux ont disparu. Et moi, j'avais fait en France des études de journalisme à l'école de Lille. Par conséquent, commencer une carrière de journaliste dans un pays où la presse n'existait pas devenait absurde. Alors je me suis dit, bon, je connaissais quand même le français, je l'avais bien appris à Lille. Donc je me suis dit, je vais essayer, mais c'était quand même à mes risques et périls.
Oui, c'est ça, comment vous avez fait pour quitter le pays?
C'était difficile. À l'époque, les frontières, c'était des choses sérieuses. On avait l'impression de passer à la fois un examen. Il fallait prouver même qu'on ne devait pas d'argent aux impôts grecs pour franchir la frontière. C'était très facile de se faire arrêter à la frontière.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté votre pays sans savoir quand vous le reverriez, si vous le reverriez un jour, bon, Vassilis Alexakis?
J'ai dû pleurer quand même dans cette voiture, c'était une deux chevaux. Je pense que j'ai dû pleurer. Mais en même temps, je me disais que s'il y avait une chance de survie et d'utiliser ce que je savais, de faire ce que je voulais, c'est-à-dire écrire, il fallait un minimum de liberté. Or, il y avait là une opposition extraordinaire, flamboyante, entre la Grèce des colonels, un pays absolument silencieux, et la France de l'après-mai 68, puisque les dates sont proches, où tout paraissait possible. Et où tout le monde parlait, même dans le métro, je me souviens de cette chose extraordinaire, ça discutait dans le métro entre inconnus, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant en France.
Justement, quels échos est-ce que vous aviez de la vie quotidienne en Grèce pendant les 7 années qu'a duré la dictature?
Mais je me suis senti coupable de ne pas participer aux souffrances, au désespoir suffisamment du peuple grec. Je faisais quelques dessins politiques que j'envoyais à un petit journal d'opposition en Grèce, mais c'est vrai que je me suis comporté en parfait égoïste quand même pendant cette période. J'essayais évidemment de faire parler de la Grèce dans la presse française. Bon, c'était des petits actes, mais la Grèce me manquait et en même temps, je vous dis, j'ai publié mon premier roman, j'ai eu mon premier enfant en 71, c'est-à-dire en pleine dictature, le deuxième en 1974, et c'est l'époque aussi où mon premier roman apparut en français.
Que le régime a pris fin en juillet 1974, justement, qu'est-ce que vous avez ressenti? À quoi est-ce que vous avez pensé tout de suite?
Tout de suite, l'idée, et ce qui nous faisait très peur, c'était l'éventualité d'une guerre avec la Turquie. Oui. On a été convoqué, et j'ai dû rentrer en Grèce pour me présenter parce que... il fallait faire ça. Donc, je suis revenu en Grèce. Après, évidemment, ça a été les périodes sombres sont suivies forcément de périodes très lumineuses aussi. Et qu'en Grèce, il y a eu, même après la fin de la dictature, un renouveau du langage. Il y avait une foule de mots nouveaux que je ne connaissais pas. Donc le langage, la langue a fleuri juste après les colonels. Je pense que c'est le signe le plus extraordinaire du bien-être d'un pays, n'est-ce pas ?
La langue.
La langue qu'il est encore en train d'inventer des mots.
La plus grande menace qui nous guette aujourd'hui précisément, quelle est-elle pour vous ? Une langue figée, justement.
Oui. Une langue
morte.
Une langue morte. Bien sûr, une langue qui ne produit pas, qui ne... À partir du moment où la réalité est sombre et qu'elle est immobile, on n'invente plus rien. On vit dans sa mémoire.
Regarde ce que vous dites, le travail de l'écrivain, le travail de l'artiste aussi, il est indispensable, nécessaire, salvateur, Vassilis Alexakis.
Je ne sais pas si ce que je fais sert à quelque chose, mais... Pour moi, les écrits des autres sont très très importants et finalement les gens qui écrivent sont au commencement des gens qui lisent, bien sûr, n'est-ce pas ? C'est la lecture. Il s'agit d'inventer, il s'agit d'imaginer. La qualité principale de l'écrivain, c'est quand même l'imagination.
On va reparler d'imagination juste après Georges Moustaki, si vous le voulez bien, qui chantait en 1961 sous le nom d'Eddy Salem, un titre que vous connaissez, Les Enfants du Pirée. Vous êtes sur France Inter avec Vassilis Alexakis à Athènes, et c'est comme si vous y étiez.
Το παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Απάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πώς αν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκα λιμάνι, τρελό να με έχει κάνει όσο τον Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γέμιση από παιδιά.
Πέσε μπουζουκιάκι βρε.
Πέσε μπουζουκλίκι Γιωργάκι.
Είναι στα καπέλα πολύ ωραία.
Πολύ όμορφη.
Δάσου με όμορφα. Δάσου με ρετσίνα.
Δώσε ρετσίνα κρασί.
Noyé de bleu sous le ciel grec, un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν γκο κάποιον άγνωστο να βρω. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde. Que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges défendu irait.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il a ce petit air faussement grognon, vous savez, cette façon de froncer le sourcil, de faire la moue ou de lever les yeux au ciel pour le simple plaisir de vous faire un peu rire. Il n'est que malice. Et c'est pas à lui que vous allez apprendre à faire la grimace. Avec son chandail et son petit t-shirt blanc, la pipe qu'il est en train de fumer depuis le début de cet entretien, l'écrivain Vassilis Alexakis nous reçoit, chez lui, en Grèce, à Athènes, à l'occasion de cette semaine spéciale dans Boomerang à l'heure européenne. Vassilis, vous êtes né à Santorin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de ce qu'on a pu vous dire, à quoi ressemblait la Grèce dans laquelle vous êtes né?
Je n'ai pas évidemment de souvenirs de cette époque parce que bon, j'étais un bébé bien sûr. Mais juste après, en Grèce, la guerre a été suivie par une guerre civile très très meurtrière. Féroce absolument, donc qui a duré jusqu'au début des années 50. De quoi je me souviens? Je me souviens de qu'on n'avait pas grand-chose à manger quand même. On habitait un quartier d'Athènes, et je sais, je ne peux pas jurer que je m'en souviens, mais je le sais bien, que mon père allait à pied, ce qui était loin, sur le mont Hymette, pour cueillir des herbes et que ma mère puisse nous faire une soupe. Et de cette époque-là date une sorte de dégoût pour la nourriture. Je n'ai jamais aimé manger parce que au commencement de ma vie, on mangeait des choses immangeables. Enfin, c'était l'horreur. Passer à table, c'était une épreuve. Donc, et je n'ai jamais aimé les glaces parce qu'on n'avait même pas d'argent pour acheter des glaces à cette époque-là. C'est l'image d'un pays très pauvre où toutes les filles des Cyclades, des îles, de Santorin, des autres, c'était des familles évidemment extrêmement pauvres, toujours pieds nus, des familles de muletiers, de paysans, mais de gens qui avaient beaucoup de mal à s'en sortir, qui faisaient énormément d'enfants, une dizaine par famille, et toutes les filles étaient condamnées d'une certaine façon à devenir bonnes à Athènes, à venir travailler dans les familles grecques. Voilà, c'est...
Vos parents, ils avaient quelles ambitions pour vous, Vassilis?
J'ai toujours été très bon élève, c'est vrai, donc ils devaient penser que je pouvais faire des études. On pensait à des études de droit à l'époque. On ne pouvait pas envisager un départ à l'étranger, bien sûr, faute d'argent, mais...
Pourtant, ça a eu lieu, vous avez débarqué à Lille.
Oui, j'ai débarqué à Lille, mais avec une bourse. Au dernier moment, alors que je m'apprêtais à passer le concours de l'école de droit, la grande nouvelle est arrivée que j'avais cette bourse. Je me souviens d'un télégramme qui le disait. C'est peut-être la meilleure nouvelle que j'ai eue de ma vie parce que, évidemment, ça me débarrassait du droit, ça m'ouvrait une porte vers la découverte. Je me rendais parfaitement compte que c'était bien pour moi de partir, qu'il fallait partir.
Et c'est le début d'un destin français, Vassilis Alexakis, quand vous vous êtes définitivement installé à Paris après le coup d'État. Vous parliez déjà très bien français. Pourtant, pour quelle raison, dès vos premiers romans, avoir délibérément choisi d'abandonner le grec pour le français?
Parce que, je vous disais, le premier roman apparu vers la fin de la dictature. C'est-à-dire, c'est une période où on ne peut rien publier en Grèce. Oui. Les maisons d'édition sont en crise, les nouveaux textes sont censurés, et moi, un de mes premiers textes que j'avais écrit, en français bien sûr, commence par la phrase, j'avais fait ça pour rire bien entendu, mais c'était inimaginable que ça paraisse en Grèce. Cette phrase disait, je vais vous dire mon problème, deux points, je ne baisse pas assez. Mais ça, c'était inimaginable de faire publier ça en Grèce, sous les colonels.
Alors, à quel moment est-ce que vous avez renoué avec votre langue maternelle? À quel moment est-ce que vous avez retrouvé le grec?
Mais c'est longtemps après. J'étais installé à Paris, donc je travaillais comme journaliste. Mais j'écrivais quotidiennement en français. Ma femme était française, donc le français est devenu ma langue, une deuxième langue maternelle quasiment. Mais au bout de quelques années, d'une dizaine d'années tout de même, je me suis rendu compte que le grec me manquait. C'est-à-dire qu'une partie de ma mémoire restait en dehors de mes écrits. Et que cette partie, c'était la partie grecque. Donc je me suis dit qu'il faut absolument que je réapprenne le grec, puisque comme je vous disais, après la dictature, il y a eu un renouveau assez extraordinaire de la langue. Donc j'ai dû revenir en Grèce plus souvent et écouter plus attentivement surtout les gens parler.
Ah ça c'est passionnant. Quelle frontière est-ce qu'il y a pour vous entre ces deux langues que sont le grec et le français? Comment se ménage le passage d'une langue à l'autre? Vous qui par ailleurs traduisez vos propres livres.
Mais écoutez, c'est plus facile et plus difficile qu'on ne croit. Je veux dire par là que une phrase sur trois, on peut la traduire mot à mot. Une autre phrase, il faut réfléchir pas mal avant de la traduire, n'est-ce pas? La troisième est réellement très difficile à traduire. Donc je veux dire, il y a des moments où les deux langues se retrouvent parfaitement. Voilà, il y a des mots qui sont très courants en français qu'on a du mal à retrouver en grec, oui.
Ça fait de l'écriture un travail difficile, en fin de compte.
Oui, ça rend l'écriture encore plus difficile, mais en même temps, les deux langues ont un dialogue avec elles, et elles se jugent. Je veux dire que des choses qui passent assez bien dans l'une, parce qu'on a l'habitude de les entendre comme cela, et que voilà, elles ne choquent pas du tout, l'autre langue peut les trouver assez artificielles et un tout petit peu ridicules. Donc je veux dire, les deux langues se censurent un peu l'une l'autre, mais elles échangent des idées aussi sur la façon de raconter les choses. Donc c'est plutôt un enrichissement, c'est plutôt une chance.
C'est par un texte sur la langue, justement, extrait de votre livre Paris-Athènes, paru il y a 30 ans, que vous avez choisi de terminer cette émission, et j'aimerais vous le lire, ce texte, si vous le voulez bien. Je n'ai nulle envie de me brouiller avec le français. Tant pis si certains français ne comprennent pas qu'on puisse écrire dans une langue étrangère par goût, délibérément. Tant pis s'ils considèrent que les ouvrages écrits par des étrangers en français ne méritent l'attention que s'ils garantissent le dépaysement. Tant pis si l'on désapprouve mes allées et venues entre deux langues, si l'on y voit le signe d'une déplorable légèreté. Je continuerai à écrire en français tant que j'en aurai envie, tant que je vivrai dans ce pays, probablement. Il se peut que je doive un jour me séparer de cette langue, il se peut que ce jour soit proche. Mais il n'y a aucune raison qu'on se sépare en mauvais termes. Je suis incapable de dire, après toutes ces années où j'ai vu défiler devant mes yeux tant de mots français, souvent écrits de ma propre main, où j'ai entendu tant de mots français, ce que le français m'a apporté exactement. Je pense que c'est beaucoup. Je lui dois mes romans, mais il me les doit aussi. Je sais bien qu'ils ne représentent rien au sein de cette formidable montagne de livres qui sont produits tous les ans en France. Ce rien, c'est cependant ce que je pouvais faire de mieux. Aucun de mes textes n'a jamais été traduit en français par un autre que moi. C'est la seule expérience qui me manque dans ce domaine. Dois-je me mettre en quête d'une traductrice ? À quoi ressemblerait un texte français signé par moi, mais écrit par quelqu'un d'autre? J'ai vécu l'expérience inverse. Un de mes romans, le dernier, a été traduit en grec par une traductrice professionnelle. J'ai eu un sentiment étrange en lisant la version grecque. Elle était très fidèle et en même temps, tout était légèrement différent. Je reconnaissais chaque phrase, mais je ne reconnaissais pas ma main. C'est probablement ma lassitude qui vient d'engendrer cette question. Si j'avais deux traductrices, l'une en Grèce, l'autre en France, serait-il encore nécessaire que je continue à écrire? Ne pourrait-elle pas s'arranger entre elles? C'est le plus beau métier, traducteur, en fin de compte, Vassilis Alexakis. Et je me pose la question, et si vous étiez peut-être d'abord, peut-être seulement, un traducteur?
Oui, un traducteur de textes qui ne sont écrits par personne. C'est ça le paradoxe. Je traduis au fond une page blanche. Voilà. Et j'arrive à trouver les mots qui sont écrits. J'arrive à lire une page blanche, c'est peut-être ça le métier d'écrivain. n'est-ce pas? C'est très plaisant à regarder une page blanche, parce qu'elle a des tas de choses à nous dire.
Merci infiniment, Vassilis Alexakis, de nous avoir accueillis chez vous ce matin à Athènes. Nous, chers auditeurs, on se retrouve demain à Berlin, à la Schönbühne, avec le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier, pour clore cette semaine de Boomerang à l'heure européenne. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras.
Quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. J'sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat.
J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. J'sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le réveil quand je rêve de toi. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Les étoiles et le ciel qui jouerait en bas. J'ai peur demain.
Johann Papa Costantino, je sais pas, sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.